Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Le Da Vinci Talks, c'est une série de conférences célébrant les icônes de l'art européen et ce sera du 26 au 28 novembre 2019 à l'École nationale des arts à Sydney. Pour en parler plus en détail avec nous, nous avons le plaisir d'avoir dans nos studios Corinne Estrada qui a récemment déménagé à Sydney et qui utilise ses relations avec le monde de l'art depuis Paris pour organiser des événements de l'histoire de l'art européen en Australie. Et puis elle est également directrice d'un événement majeur dans les musées du monde, la conférence Communicating the Arts, qui réunira également les leaders de l'art mondial à Sydney eh bien en novembre. Corinne, bonjour.
Bonjour Johanna.
Merci d'être avec nous sur SBS en français.
Merci de votre invitation.
À l'occasion du 500e anniversaire de la mort de Léonard de Vinci, Agenda, c'est votre boîte de communication, présente une série de conférences publiques célébrant les maîtres de l'art de la Renaissance et d'autres icônes de l'histoire de l'art européen. Expliquez-nous un peu le but de cet événement. Est-ce que c'est apporter l'histoire de l'art européen en Australie ?
Alors l'idée est venue d'une discussion avec The Australian Newspaper et on s'est dit pourquoi à l'occasion de l'anniversaire de Léonard de Vinci, de la mort de Léonard de Vinci, ne pas organiser un événement à Sydney en Australie pour célébrer cette exposition. Donc c'est effectivement l'idée, c'est vraiment de faire rayonner l'Europe, de faire rayonner l'histoire de l'art, de parler à la fois des personnages, des icônes intemporelles et aussi des monuments. Donc c'est une série annuelle qu'on lance cette année et qui aura lieu chaque année avec le soutien de l'Union européenne et de Renaissance Tour.
Alors maintenant, on va revenir un petit peu sur les sessions. La première, ce sera le 26 novembre prochain et elle s'intitule « Léonard de Vinci, humaniste et visionnaire ». Alors, on va parler quoi ? De la façon dont il a inspiré à travers les siècles ?
Alors, Léonard de Vinci, c'est un homme universel, c'est un homme qui a inspiré beaucoup de monde, non pas uniquement les artistes, mais beaucoup de, à la fois les scientifiques, les botanistes, enfin c'était un homme très complet, très en avance sur son âge. La Renaissance, c'est un siècle majeur de transformation à plein niveau, c'est le peintre artisan devient un artiste, donc il est reconnu comme un individu, et Léonard de Vinci va vraiment avoir une place prépondérante. Il est à cheval entre l'Italie et la France, donc c'est un personnage européen qui s'est inspiré de tout ce qui se passait. Il était aussi astrologue, mathématicien, enfin il touchait à tout, il finissait aussi pas tout, comme on sait sur certains tableaux. Donc voilà, quel est son héritage aujourd'hui, à la jeunesse d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut apprendre de lui. Donc c'est vraiment tous ces messages-là dont on va parler pendant la conférence. Alors il y a une chose aussi qui est importante, c'est que le public australien est passionné par l'Italie et par la France. Les deux pays où les Australiens voyagent en priorité sont d'abord l'Italie et ensuite la France. Donc on s'est dit aussi par rapport à ça qu'il y avait une actualité et que ça s'adresse aussi aux amoureux de l'art qui vont en France chaque année, qui vont voir les expositions. Le public australien est le premier public qui, en termes d'intérêt, qui visite des musées. Le MoMA avait fait une étude en montrant que c'était vraiment un public raffiné, culturel, qui cherchait à s'instruire et qui cherchait et qui passait du temps dans les musées. Donc c'est aussi des philanthropes, donc on a besoin de ce public-là en France, et c'est vraiment aussi pour ça qu'on fait cette conférence, c'est pour faire rayonner la France en Australie.
Alors vous qui comprenez un peu comment marche l'art, est-ce que vous pensez, alors bon, bien évidemment il y a des choses à faire à Sydney, attention, je suis pas en train de dire que, mais on parle souvent d'un manque de culture, d'un manque de d'événements culturels. Et justement, donc c'est marrant que le public australien soit le premier public à aller visiter les musées quand c'est un public qui voyage. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça par justement un manque peut-être ?
Je dirais pas manque, parce qu'il y a plein de choses en Australie, et puis bon, c'est un pays ouvert sur la nature, sur l'extérieur, donc c'est une autre culture. Mais je pense que les Australiens ont besoin de connaître leurs racines. Ils viennent de l'Europe, donc il y a cet attachement culturel qui est très fort, et je pense que ça vient surtout de là, plutôt que de voir ça comme un manque, en fait. C'est plus de compenser quelque chose par rapport à leur histoire, et puis de comprendre le monde. Et ça passe par comprendre l'héritage culturel européen.
Alors, la seconde session, ce sera le 27 novembre, et on va surtout parler de la cathédrale de Notre-Dame. Pourquoi est-ce que vous avez choisi ce thème ?
Alors, c'est Jacques qui m'a suggéré de parler de Notre-Dame de Paris, parce que c'est aussi un personnage, Notre-Dame de Paris, avec Victor Hugo, avec toute l'image collective qu'on a vu, l'engouement au niveau de... Après le 15 avril, au moment de l'incendie. Ça a vraiment déchaîné des passions, à commencer par les grands tycoons que sont Arnaud et Pinault. Donc tout le monde a vraiment voulu collaborer et donner une contribution aussi bien très énorme que petite. Et ça, on va en parler beaucoup. D'ailleurs, on va en parler avec Guillaume Maréchal pendant Culture Business, comment l'émotion collective autour de la religion est très forte. Donc ça, c'est important. Et Jacques va parler de Notre-Dame comme en termes d'image collective et ce que ça véhicule en termes de passion.
Enfin, en dernière session, c'est donc le 28 novembre, donc le thème c'est les hommes de la Renaissance et génie intemporel. À quoi est-ce qu'on doit s'attendre ?
La Renaissance a vu une floraison de génie et on va se focaliser sur trois en particulier qui sont Raphaël, Léonard, bien sûr, et Michel-Ange. Et ces trois, on va surtout parler de leur manière de faire de peindre, mais aussi de gérer leur atelier, qui était très différente. Il y en a un qui travaillait d'une manière collective avec son équipe, c'était Raphaël, qui est mort très jeune. On fêtera justement l'anniversaire de sa mort l'année prochaine, avec des grandes expositions en France. Donc Raphaël, un génie très différent de Michel-Ange, qui lui a un ego surdimensionné et a beaucoup un caractère aussi un peu extrême, donc une manière de travailler beaucoup plus égocentrique, donc très différent. Puis le dernier qui est le visionnaire, qui est vraiment celui qui est en avance sur son temps, réunir toutes les sciences et s'inspirer de tout ce qui se passe, regarder de tout ce qui, non pas juste en Italie mais en France, et regarder d'une manière universelle son temps. Et c'est Léonard qui est pluridisciplinaire.
Alors, toutes ces sessions, ça va se passer à l'école nationale des arts à Sydney.
Voilà, National Art School. Je pense que c'était important de choisir un lieu historique. Et quand on a approché le National Art School, ils ont tout de suite répondu positivement. Donc, on est très content d'avoir cette collaboration avec eux. Donc, dans l'aile principale, le cell block, qui est l'ancienne prison des femmes. Donc, où on va faire ces trois conférences.
Alors maintenant, on va revenir un petit peu sur vous. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre parcours ? Vous avez donc une agence de communication qui est basée à Paris, mais également installée ici à Sydney. Comment est-ce que tout a commencé ?
Alors c'est une belle aventure qui a commencé avec les Anglais en 95, quand ils m'ont demandé d'être leur agence en France et de les représenter au niveau continental. Donc à ce moment-là, j'ai créé une agence de communication pour travailler avec la Tate, la National Gallery, avec le British Museum, le Victorian Albert Museum. C'était fascinant. Et en 2000, la Tate Modern ouvre ses portes. Et là, la Tate Modern avait un brief très clair, c'était « on veut être le modèle du 21e siècle ». Donc c'était très ambitieux, à l'image des Anglais, je leur dis, venez au Louvre et on va en parler. Et d'un groupe de 7 personnes autour de la table, avec le Louvre, le Centre Pompidou, la Tate, la National Gallery et quelques autres, on est devenu 7000. Donc ça a été une aventure planétaire, vraiment, où on a commencé à parler du branding dans les années 2000. Ensuite, on a parlé de l'audience dans les années 2010. Et depuis 2015, c'est intéressant, on parle beaucoup plus de social engagement, donc du musée en tant qu'engagement activiste et toujours de l'artiste qui est au centre. Et cette année, c'est une première, on ouvre l'audience aux performing arts, c'est-à-dire les festivals, les théâtres, les opéras, donc qui amènent un regard beaucoup plus frais et une analyse de la clientèle très, très pointue. Donc ça va être passionnant.
Quand est-ce que vous vous êtes retrouvée à travailler avec et dans le monde de l'art aussi? Quand est-ce que c'est devenu une passion? Quand est-ce que vous vous êtes dit « c'est ça que j'ai envie de faire »
Je crois que c'était un concours de circonstances, parce que avant j'étais aux États-Unis, et en revenant, bon, j'ai une mère qui est peintre, donc j'étais toujours baignée dans cette atmosphère, et mon idée c'était vraiment de faire rayonner les arts entre Paris et Londres et d'avoir cette dimension européenne. Je pense que c'est parce que je revenais des États-Unis que j'avais ce sentiment. Et tout de suite, c'est vraiment les Anglais qui m'ont mis le pied à l'étrier en disant ben, tu vas travailler pour nous pour faire la promotion de nos expos en France et partout dans toute l'Europe continentale. Pour nous, parce que voilà, tu connais bien les agences de voyage, la presse, et puis les autres institutions culturelles. Donc ça a été tout de suite une super aventure, et c'est vrai que c'était une chance exceptionnelle de travailler avec les Anglais à cette époque-là. Voilà. Puis il y avait l'Eurostar qui ouvrait, donc Londres devenait la banlieue de Paris, et puis inversement, donc ça a été 15 années flamboyantes.
Et votre aventure en Australie ?
Alors, on a commencé à faire ces conférences un peu partout en Europe, et les Australiens venaient régulièrement chaque année, donc on tournait en Scandinavie, on a été aussi aux États-Unis, à New York, faire ces conférences, et en 2013, j'ai été invitée par la ville de Sydney pour venir faire ces conférences à Sydney. Donc l'idée, c'était de venir avec toute la famille, et c'est ce qu'on a fait pendant une année. Donc on s'est installé, on a fait une grande conférence, c'était la première conférence de l'hémisphère sud avec les professionnels des musées. Et on a 300 leaders internationaux qui sont venus. Ils ont une réception vraiment fantastique par tous les musées. Et on s'est dit, on va le refaire en 2019, 5 ans après. Voilà.
Alors maintenant, on va parler juste d'un tout autre événement. La semaine prochaine, du 12 au 14, et puis aussi du 21 au 22 novembre, à Sydney, un rendez-vous, un événement. Communicating the Arts, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu ce que c'est, comment et où cela va se passer?
Alors, Communicating the Arts, c'est la conférence sur la communication dans le domaine culturel. Donc, on a invité une cinquantaine de speakers du monde entier, donc à la fois d'Europe, d'Afrique, des États-Unis, d'Amérique du Nord et d'Asie, pour venir échanger pendant 3 jours au Maritime Museum, à l'Art Gallery et dans d'autres lieux culturels de Sydney. Donc on va échanger, on va faire des safaris à travers toute la ville, et pendant 3 jours, ça va être vraiment des échanges, des rencontres à des niveaux, tous les niveaux, puisqu'on invite à la fois les directeurs de communication, les directeurs de public, et également des petites institutions, des grandes institutions. Donc on veut vraiment une richesse dans le dialogue.
On mettra les liens des événements de toute façon avec toutes les informations en ligne sur notre article. Alors, donc, on va mettre ça. Et puis, maintenant, est-ce que vous pouvez nous parler peut-être d'autres futurs projets, si vous en avez ?
On a plein de futurs projets. L'année prochaine, donc là, on vient de terminer le Montréal il y a 15 jours. On sera en Amérique du Nord également l'année prochaine à New Orleans, où on parlera d'accessibilité. Donc ça, c'est la conférence qui a lieu tous les ans en Amérique du Nord. On ira à Lausanne au mois de juin et là on parlera de placemaking, le développement des quartiers culturels dans les nouvelles villes. On va également faire le projet de faire une conférence sur le well-being à Auckland, parce que vraiment c'est un pays tellement accueillant et aujourd'hui avec une volonté d'agir dans ce domaine. Donc ça nous paraît vraiment le moment d'aller faire cette conférence. En plus, on n'a jamais été en Nouvelle-Zélande, donc on est très, très excités par cette idée. Et puis Perth, parce que Perth ouvre un grand musée l'année prochaine et qu'il y a beaucoup de philanthropes et qu'on veut faire une conférence sur la philanthropie à Perth.
Bon, bah, on se tiendra au courant alors et puis on parlera de tout ça l'année prochaine. Corinne Estrada, merci d'avoir été avec nous sur les ondes de SBS en français.
Merci, Johanna.
Radio SBS en français, en ligne et sur votre smartphone.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.